RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Retour des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Abel Boyer, l'éducateur, Barbara Lefebvre, la prof d'histoire géo et Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise. Laissez-moi vous donner le programme jusqu'à midi. Vous avez vu que Zizou arrive.
Yes.
Un secret de polichinelle. Son nom n'a toujours pas été annoncé officiellement. Enfin, a priori, il sera nommé la semaine prochaine sélectionneur de l'équipe de France pour remplacer Didier Deschamps, Zinedine Zidane. Alors, le problème, c'est que le poste de sélectionneur, c'est capé. C'est 450 000 euros par an. Ce qui est d'ailleurs une belle somme déjà. Mais visiblement, pour Zizou, il faut plus d'argent. Donc, on est en train de voir comment on peut faire pour casser la tirelire, déjouer les règles.
Deschamps touche beaucoup plus.
Donc, Zizou, est-ce que Zizou, il faut se le payer à n'importe quel prix? Ou au contraire, c'est à lui aussi de faire un effort, d'autant plus qu'il n'a pas vraiment ça, de besoin de ça pour vivre. Donc, s'il veut devenir sélectionneur, il faut qu'il se plie aux règles. Bref, on en discutera ensemble dans les grandes gueules. Et puis, on reviendra également sur les restrictions d'eau cet été dans de nombreux départements, remplissage des piscines, arrosage, etc. Est-ce que vous les respectez vraiment? Ou est-ce que discretos vous remplissez de votre piscine en espérant que le maire ne s'en rende pas compte?
Je fais comment avec ta piscine, voilà. Emmanuel?
Vous l'avez
cette année, je ne l'ai pas ouverte.
Emmanuel a quasiment il a décidé de ne pas l'ouvrir. C'est dommage parce que c'est quand même l'année canicules.
C'est la malchance.
Bon, on en parlera tout à l'heure avec vous au 32-16. Mais pour commencer, on va peut-être vers une crise gouvernementale majeure, au cœur de l'été. Mmh. Madame Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, menace de démissionner. Elle l'avait dit d'ailleurs, si la loi d'urgence agricole est votée telle quelle, je m'en vais. La loi a été votée cette nuit.
Et tout le monde s'en fout.
Autant dire que Monique Barbu ne sera peut-être plus ministre d'ici la
ce
fin
soir.
De la journée.
Et alors là,
donc
là,
nous allons suivre Monique Barbu,
remplacée par Jean-Pierre Saumon,
pour savoir si, oui ou non, elle avale son chapeau, elle reste au gouvernement, ou si elle va au bout de ses convictions et elle démissionne ce gouvernement qui a osé réintroduire deux pesticides. Alors, de quoi s'agit-il? Parce que les débats ont été très houleux à l'Assemblée nationale. Finalement, la loi a été votée avec cet article qui a été introduit et qui fait beaucoup parler. En fait, c'est permettre de réintroduire à titre dérogatoire, et sous condition, deux pesticides qui sont interdits en France, mais autorisés partout dans l'Union européenne, dont l'acétamipride. On en a beaucoup parlé, parce que on en a besoin pour certaines filières en difficulté. Et donc, le gouvernement dit OK, mais dans ce cas-là, il faudra demander à l'ANSES de dire si oui ou non on peut utiliser cet insecticide qui est accusé d'être un tueur d'abeilles. Alors, est-ce qu'on a eu raison de faire ça pour aider les agriculteurs, ou est-ce que vous êtes du côté de Monique Barbu et vous dites non, on n'aurait jamais dû céder? Emmanuel Le Billier.
L'agriculture a déjà assez de difficultés pour qu'on arrête d'emmerder un peu plus les agriculteurs. Ne laissons pas des faux écolos jouer sur les peurs, puisque c'est pratiqué ailleurs, et ce sont des le mot est un peu exagéré, mais ce sont des ayatollahs de toujours vouloir tout interdire. Et comment on va cultiver? Faut quand même être réaliste. Et les agriculteurs méritent d'être aidés. Il suffit pas de les applaudir sur le bord des routes. Faut les aider concrètement. Donc là, il y a pas photo. L'Assemblée nationale a eu parfaitement raison.
Pour moi, c'est un petit peu comme le premier débat qu'on a eu avec le personnel de santé. C'est-à-dire que quelque part, des écolos accusent des agriculteurs qui sont en contact avec la nature de 6h du matin, des fois jusqu'à 20h, 22h le soir.
C'est pas parce que t'es en contact avec que tu peux pas la dégrader.
Ah oui, d'accord, mais je pense pas qu'un agriculteur soit anti-nature. S'il y avait pas les agriculteurs, je pense qu'on n'aurait pas tous ces merveilleux paysages lesquels on s'émeut tous les jours. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on laisse nos agriculteurs français mourir à cause de la concurrence internationale, ou est-ce qu'on les aide un peu, sachant qu'on parle de situations dérogatoires, de situations situation bien précise. Et surtout, il faut travailler avec les agriculteurs. Il faut aussi leur faire confiance. Donc, est-ce que, entre guillemets, la baisse du nombre d'abeilles en France, c'est du fait uniquement de l'agriculture? Je n'en suis pas sûr. Donc, on peut pas à chaque fois mettre des épées de Damoclès sur les gens, dire vous êtes des tueurs de ceci, des tueurs de cela, et on vous interdit tout.
Concernant Monique Barbu, je donne une information qui nous vient du Parisien. Oui. Elle doit être reçue d'ici la fin de la matinée par Monsieur Le Cornu pour évoquer son avenir au sein du gouvernement. Mais c'est assez intéressant. Je me moquais un peu de Monique Barbu parce que c'est vrai que les Français la connaissent pas, mais c'est une militante écologiste. Hein. Mais c'est toute la limite du en même temps de Macron, c'est-à-dire en même temps Emmanuel Macron à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, qui est très proche des agriculteurs et qui a promis cette loi agricole. Et puis il a aussi dans son gouvernement Monique Barbu, qui est une écologiste type Marine Tondelier et qui forcément est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et il pense que tous ces gens-là dans le même gouvernement, ça va fonctionner. On voit bien que dès qu'on rentre dans le dur, ça explose.
L'acétamipride, elle vient lutter contre le puceron qui transmet la jaunisse, le virus de la jaunisse, à la plante de la betterave. Donc ça concerne essentiellement les grandes exploitations de betteraves à sucre, qui elles-mêmes sont soumises évidemment à la grande compétition mondialisée. Donc là aussi, moi je suis désolée pour les agriculteurs qui n'ont pas choisi la mondialisation et de la subir, mais force est de constater qu'elle est là, et que d'ailleurs certains de leurs responsables syndicaux se portent plutôt bien avec la mondialisation agricole. Encore une fois, excusez-moi, mais Monsieur Arnaud, le chef de la FNSEA, est aussi à la tête d'un grand consortium agroalimentaire qui s'appelle Avril. Donc encore une fois, vous savez, quand ces gens viennent parler des paysans et des agriculteurs, mais ils participent du système qui a appauvri les agriculteurs et qui les a mis en concurrence avec la betterave à sucre ou avec le sucre d'autres parties du monde, où effectivement on pollue et on tue les abeilles à grande échelle, excusez-moi, faut pas venir jouer les vertueux. Donc encore une fois,
c'est une bonne idée d'interdire uniquement en France un produit que tu dis partout.
La question, oui, mais moi je pose une autre question. Est-ce qu'on a envie d'un pays dans lequel on aura plus de pollinisateurs, c'est-à-dire les abeilles et les insectes auxiliaires qui jouent un rôle majeur
je préfère les agriculteurs aux abeilles dans l'immédiat.
Non, mais alors excuse-moi Emmanuel, je veux bien les formules à l'emporte-pièce, mais je pense que tu n'es pas sans ignorer, puisque tu es un homme de la terre.
Moi, je vis à la campagne.
Voilà, donc tu sais quand même quel est le rôle majeur des pollinisateurs, parce que sans pollinisateurs, t'as pas d'agriculture.
Oui, d'accord, mais dans l'alternative, je préfère les agriculteurs.
Il n'y a pas une possibilité de nuance.
Il y a une possibilité, puisqu'il existe des méthodes alternatives, en agroécologie notamment. Il y a la rotation des cultures, il y a l'utilisation d'insectes prédateurs du puceron, notamment les coccinelles, il y a le biocontrôle et il y a la sélection des variétés. Donc il y a des choses qui sont sur la table. Seulement, on ne laisse jamais le temps.
Alors,
et on
n'investit
pas assez. On n'investit pas assez dans les nouvelles formes d'agriculture. On préfère, parce que c'est plus facile, dépendre de l'acétamipride dans les champs, parce que ça permet aussi aux agriculteurs.
Dans tous les aliments, t'en
manges
soi-même.
Mais je comprends les agriculteurs, il faut bien qu'ils payent leurs factures. Mais on dit, oui, mais ça va pas assez vite de nous prouver que l'agroécologie, ça fonctionne. Investissez dedans et vous verrez que ça fonctionne. Mais courir derrière pour essayer de rendre.
Y a-t-il un exemple d'un pays qui passe par cette méthode et ça cartonne?
T'as des pays.
Non, mais je demande vraiment.
Oui, il y a des pays.
Comme pas en Europe.
Non, mais s'il y a des régions où on pratique l'agroécologie.
Tu veux que les agriculteurs se déguisent en coccinelles?
Rien les empêche.
Il faut maintenant le faire sur de très grandes surfaces.
Rien ne les empêche.
Mais là, il faut que tu puisses produire des coccinelles. Oui, mais il faut produire.
Ça marche pas très bien.
Non, mais il faut produire. Non, mais arrêtez de prendre.
Mais non, mais le bio, ça ne marche pas très bien parce que c'est trop cher.
Vous tournez ça au ridicule.
Mais le pouvoir d'achat a tué le bio.
Je vais vous dire. Il y en a toujours eu des pucerons sur les plantes de betteraves. Seulement, comme on est dans l'hyperproduction et l'hyperconsommation, ça va plus. Vous voyez pas. Vous savez quand même les problématiques cancérigènes et de perturbateurs endocriniens de tous les produits pesticides.
Les études, alors là, il y a aucune étude qui démontre que l'acétamipride.
Non. Non, il y a des suspicions de cancer. J'ai dit, il y a des suspicions de cancer et de.
Il n'y a aucune étude sérieuse qui démontre que l'acétamipride.
Une suspicion, c'est pas une affirmation.
C'est le cas système de précaution. Là, c'est le principe de précaution. Moi, je veux bien qu'on le refasse, l'acétamipride, mais il ne faut juste pas venir nous dire que c'est complètement inoffensif.
Rémi,
c'est tout. Et qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas vrai.
Rémi est avec nous. Il est agriculteur.
On va se donner les moyens, c'est tout.
Rémi, bonjour.
Oui, bonjour les GG. Bon, j'espère que Barbara va me laisser parler un petit peu.
On va espérer.
Ouais, c'est beaucoup hypocrite et désolé, j'ai la boule au ventre quand j'entends tout ça. Parce que déjà, les abeilles, si on n'en a pas, on ne produit pas d'alimentation, de légumes, de fruits. Hein, c'est la pollinisation, vous l'avez dit. Donc, moi, venez vraiment sur le terrain et je vous montrerai les abeilles. Parce qu'apparemment, dans les bureaux, il n'y en a pas tellement. Moi, j'en vois tous les jours, tout comme je vois des oiseaux, tout comme je vois des insectes. Aujourd'hui, c'est de l'hypocrisie et c'est un faux problème. De l'acétamipride ou d'autres produits, vous en mangez tous les jours pour la bonne et simple raison qu'on importe des quantités astronomiques de notre alimentation.
Bah oui.
Et petit à petit, les politiques et pas la science, parce qu'aujourd'hui l'ANSES n'est pas contre l'acétamipride, aujourd'hui je parle bien, tout comme l'EFSA au niveau de l'Europe, parce que tous les pays en utilisent. Aujourd'hui, politiquement, on est en train de tuer l'agriculture française depuis des dizaines d'années. Moi, ça
on
fait très longtemps.
On instrumentalise, comme le dit le cornu, cette histoire pour des fins politiciennes.
Mais bien sûr. Mais déjà, l'ANSES n'a pas donné d'avis contraire pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que peut-être dans quelques années, on démontrera autre chose. En ce moment, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'encore une fois, ce qu'on demande, c'est pas d'interdiction sans solution viable, économiquement, écologiquement, etc. Parce que moi, je veux bien les alternatives. Tous les jours, on expérimente des alternatives sur les exploitations. On n'est pas débile, désolé du mot. Mais au bout d'un moment, on est les premiers concernés, que ce soit notre santé lorsqu'on emploie des produits. On est formé pour, on le fait à bon escient. Ça coûte extrêmement cher. Donc en plus de ça, on va pas gaspiller notre argent qu'on a déjà pas. Et puis ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a envie de produire de qualité, mais au bout d'un moment, on n'y arrive plus, en fait. On n'arrive plus à aller plus loin que ce qu'on nous demande. Et surtout, c'est de l'hypocrisie parce qu'on nous demande des choses, mais on ne nous l'achète pas. Aujourd'hui, exactement. On produit en bio autant que faire se peut. On se met un label, mais en fait, c'est un gage de qualité pour le consommateur. On le fait quand on peut. Au maximum. Moi, je suis en bio sur la partie production de fruits et légumes. Je n'ai pas fait un traitement de l'année parce que j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai des pertes. J'estime que pour l'instant, c'est raisonnable, donc je ne mets pas de produits. Maintenant, on est combien de Français à nourrir et puis on est combien sur la planète? Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, des Barbara Lefebvre, elle regarde son petit nombril pour manger tous les jours, mais les pays où on exporte
écoutez,
l'alimentation...
Écoutez, arrêtez un peu cette espèce de truc.
Demain,
non, mais cette espèce de discours de vous connaissez de la campagne et les autres la connaissent pas, ça va bien.
Barbara, il sait de quoi il parle.
Mais non, mais c'est
désolé,
donc quand t'es soldat, il y a qu'un soldat qui peut parler de la guerre, il y a qu'un prof qui peut parler de l'école, il y a qu'un agriculteur qui peut parler de l'agriculture. Voilà. Il y a qu'un chasseur qui peut parler du chevreuil.
Un prof connaît mieux l'école, un agriculteur connaît mieux l'agriculture et un soldat connaît mieux la guerre.
Non, je suis désolée, c'est un débat d'utilité publique. Moi, je voudrais juste demander une chose à Rémi. Rémi, est-ce que dans l'histoire, en particulier des 40 dernières années, il y a eu des produits que vous appelez phytosanitaires, des produits chimiques mis sur les plantes, etc., qui ont rendu des agriculteurs malades, gravement malades, et qu'on a ensuite interdit.
Alors, il y a deux choses. Déjà, oui, c'est des produits phytopharmaceutiques parce que c'est des médicaments pour les plantes.
Oui, personne ne regarde les médicaments. Qui tue les abeilles, qui tue les animaux.
Il y a des mises à marché, tout comme le Doliprane, quand vous le prenez à forte dose, il vous tue, madame.
Non, mais je vous demande s'il y a eu des produits pour les humains, des agriculteurs qui ont eu des cancers, et grâce aux démarches juridiques qu'ils ont fait, ça a permis d'interdire des produits qu'ils utilisaient, qui les ont rendus malades, eux, leur famille, etc. Est-ce que c'est arrivé ou pas dans l'histoire récente?
Alors moi, ce que je vais vous répondre, c'est qu'aujourd'hui, pour démontrer quelque chose de A à Z, c'est impossible. Je ne dis pas que c'est des produits qui ne sont pas dangereux.
Écoutez, vous irez le dire aux Antillais, le chlordécone, par exemple.
Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, mon grand-père, il y a eu une période où mon père était dans sa vigne, et il traitait à l'hélicoptère, il montrait à l'hélicoptère où c'est qu'il fallait passer. C'est un temps passé. Je ne vais pas blâmer mon grand-père parce qu'ils ont fait ce qu'on leur donnait. Aujourd'hui, on est en 2026, on a des technologies qui sont autres, on a des produits qui sont autres.
Oui, mais vous voyez, je suis d'accord avec vous, Rémi.
Et aujourd'hui,
vous êtes bien d'accord que les organochlorés ou les organophosphorés ou le chlordécone, ça a produit, on les a utilisés pendant des années en pensant que ça ferait pas de mal, ça ferait pas de mal, jusqu'au jour où on s'est rendu compte que c'était dangereux.
Mais là, tu joues avec les peurs.
Tu compares à la guerre du Vietnam, là, attends.
Laissez-moi finir, s'il vous plaît.
Va voir aux Antilles la guerre du Vietnam, ce que ça a fait le chlordécone.
Mais quel est le rapport avec l'acétamipride?
Mais parce que ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, l'acétamipride aujourd'hui, si la France a décidé et que l'ANSES, etc., ont décidé de suspendre, c'est qu'il y a des fortes suspicions.
Mais non, justement, l'ANSES, c'est qu'on peut réintroduire.
Oui, mais avant, ils avaient dit qu'il fallait avant, il fallait l'arrêter. Maintenant, on peut à titre dérogatoire la remettre. Il y a un système de précaution pourquoi est-ce que ça a été fait sur les néonicotinoïdes? C'est parce qu'il a été prouvé que ça avait des effets sur les sols, sur la facile, plante et les insectes. Oui,
c'est facile d'être dans un bureau.
Et qu'il y a des suspicions sur les êtres humains.
C'est facile d'être dans un bureau d'emmerder les agriculteurs.
Eh oui. Ceux qui emmerdent les agriculteurs, c'est le Mercosur. Ceux qui emmerdent les agriculteurs, c'est la mondialisation.
Oui, oui.
C'est ça qui emmerde les agriculteurs. Et ça, la FNSEA,
la mondialisation qui utilise ces produits qui sont interdits en France.
Parce que c'est la FNSEA qui
et c'est la FNSEA qui cultive en France aussi. Ce sont tous ces agriculteurs.
Évidemment, mais non, ils ont mis en situation nos paysans de devenir des agriculteurs productivistes et ils n'arrivent pas à produire puisque de toute façon, il y a la concurrence internationale qui produira toujours moins cher et toujours plus de merde.
Oui, mais enfin, Barbara, alors là, du coup, c'est contradictoire parce que justement, en interdisant des produits chez nous et en les laissant ailleurs, on va dans le sens, effectivement, d'une concurrence complètement
faussée. Ah, mais ça, c'est parce que tu as un pays qui n'est pas protectionniste et que c'est parce que tu as un pays qui signe des Mercosur, des CETA et compagnie.
Mais non, parce qu'on a un pays... On a un pays qui a voté le principe de précaution pour tout et n'importe quoi et qu'à un moment donné, on a peur de tout.
Crois-moi. Va voir encore aujourd'hui qu'on n'a même pas accepté de dédommager toutes les dizaines de milliers d'antillais qui sont malades du chlordécone. Si, c'est un rapport avec le chlordécone. Le chlordécone, pendant des années, on t'a expliqué qu'il n'y avait pas de problème. Encore aujourd'hui, les sols aux Antilles sont pourris par le chlordécone.
Le principe de précaution, c'est le passé. Il y a d'ailleurs un candidat Retailleau qui propose sa suppression.
Allez, est-ce qu'il y a une consultation là-dessus, sur ce sujet? Non, il n'y en a pas. Bon, très bien. Il n'y a plus de consultation en régie. Ils sont déjà partis en vacances. Allez, dans un instant, Zizou. Zizou, lui, il arrive. Il se prépare avec son banquier.
Personne n'étant entraîneur sur ce plateau, personne n'a le droit de parler, apparemment, puisque vous êtes
entraîneur. Il arrive avec son banquier.
Zinedine Zizou. Zidane, qui.
La légende.
Peut-être voudrait être mieux payé que Deschamps. En tout cas, il y a un salaire de. Qui est prévu, hein, c'est 450 000 euros à l'année. Et visiblement, il faudrait plus pour faire venir Zidane. Donc, on va trouver des moyens de le payer davantage. Est-ce qu'il faut casser la tirelire pour Zidane ou au contraire, il faut qu'il se plie à ses règles, d'autant plus qu'on n'a plus d'argent. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
h 23, la suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Autour de la table ce matin, Belboyer l'éducateur, Barbara Lefebvre, la prof d'histoire géo et l'entrepreneur Emmanuel Devilliers. Vous n'êtes pas sans savoir que Didier Deschamps quitte son poste de sélectionneur de l'équipe de France après 14 ans de bons et loyaux services. Et vous n'êtes pas sans savoir que son remplaçant, a priori, sera Zizou Zinedine Zidane. Même si officiellement, pour l'instant, son nom n'a pas été prononcé. Ça sera la semaine prochaine. Oui, mais il y a peut-être un problème de salaire. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Alors Zidane, il va marquer, non, parce qu'il ne joue plus, mais Zidane, il va faire marcher. On espère, en tout cas, quand il s'occupera des Bleus. Alors, il y a une loi, parce qu'il y a, il y a toujours des lois en France, hein. On adore voter des lois. Il y a une nouvelle loi qui va être votée aujourd'hui et qui réforme le sport professionnel. Et dans cette loi, il y a un amendement qui plafonne à 450 000 euros le salaire annuel des dirigeants et des salariés du sport. Donc, a priori, si cette loi est adoptée, Zidane, c'est 450 000 euros par mois et pas un euro supplémentaire. Le problème, c'est que Zidane, pour 450 000, vous ne l'avez pas. Donc, Marina Ferrari, la mise des sports, c'est elle. Oui, il y a une mise des sports qui s'appelle Marina Ferrari.
Qui s'appelle Alpine Renault.
Bon, elle n'a pas choisi son nom. Marina Ferrari, vous savez, c'est elle qui avait donné des pierres porte-bonheur aux Bleus. Bon, voilà, visiblement, ça n'a pas marché pour gagner cette Coupe du Monde. Mais bon, en tout cas, Marina Ferrari, qui était interrogée récemment, a expliqué que pour Zidane, il y aura une dérogation et que c'est prévu par la loi. C'est-à-dire qu'il y a une loi, mais il y aura des dérogations.
Des niches fiscales.
Signées par la ministre des Sports, parce qu'elle dit, quand on est sur des postes comme ça, des sélections nationales, partout dans le monde, ce sont des postes qui coûtent effectivement un peu d'argent. Alors, Madame Ferrari ne va pas jusqu'à nous dire précisément combien elle est prête à donner à Zidane. Ça serait bien d'avoir le transparence, parce que c'est de l'argent public. Hein. Je vous rappelle
non, mais justement, t'es sûr que c'est de l'argent public?
Non, justement.
C'est pas de l'argent public.
Non.
C'est la fédération qui va faire quand même.
Attendez.
Laissez-moi terminer. Donc, est-ce que oui ou non, il faut déroger à cette règle qui va être votée, donc permettre à donner plus à Zidane, ou est-ce que Zidane doit se plier aux 450 000 euros et puis parce que derrière, de toute façon, il a de l'argent et que là, c'est pour la bonne cause. Qu'est-ce que vous en pensez, le 32-16, Emmanuel?
Pour aller sur les éléments principaux, Zidane est un très grand joueur, que les Français apprécient. C'est aussi un très grand entraîneur, puisque pour mémoire, il a remporté 3 Ligues des Champions,
deux championnats
d'Espagne. Un palmarès extraordinaire. Mais s'il vient derrière Deschamps pour l'argent, alors là, moi, je suis pas d'accord.
Mais non.
Je suis pas d'accord, parce que Monsieur Zidane, il a une fortune considérable. C'est de l'argent qu'il a pas volé. Il a une fortune évaluée entre 100 et 130 millions d'euros. Est-ce qu'on se rend compte des montants? Et même s'il ne l'a pas volé, cet argent, grâce à son talent et son professionnalisme, on peut quand même s'étonner aussi des rémunérations dans le monde du football qui sont extravagantes par rapport à tous les autres métiers. Quand un couvreur va sur une église ou autre, il a même pas une rémunération qui peut être comparée aux joueurs de foot. Et là, s'il vient pour l'argent, c'est vraiment profondément décevant. Et la rémunération déjà de 40 000 euros par mois est tout à fait suffisante. Et quand on est un petit milliardaire comme Zidane, on n'a pas besoin d'aller décrocher la timbale en emmerdant la ministre.
Toi qui dénonce le populisme partout, tu nous sors les bégonias et tu racontes n'importe quoi.
Les bégonias.
La Fédération française de foot sur l'exercice 2024-2025 est sortie avec un déficit de 8,7 millions à cause de la crise des droits TV. Année 2025-2026, Coupe du Monde oblige. Il y a un excédent, ça va mieux. Et pour l'année qui vient, on part sur un budget exceptionnel de 348 millions d'euros. Donc, les comptes sont ouverts parce que d'où vient l'argent de la Fédération française? L'État ne met que 2 à 4% seulement. Ce sont les droits TV, les sponsors et ce sont des fonds privés. L'État, c'est 2 à 4% seulement. Donc oui, si l'État était actionnaire majoritaire, je veux bien. Et Zidane, mais Zidane, ce qu'il va rapporter en termes de droits TV, en termes de sponsors, rien que son nom. Mais non, mais le nom de Zidane, c'est une marque mondiale,
il n'est pas en train de se vendre. Il a l'honneur d'être appelé à la tête de l'équipe de France. Il est fortuné, il y a un salaire.
Mais
c'est
toi
bon.
Qui es chef d'entreprise, tu sais très bien qu'il y a l'image commerciale qui
Qu'est-ce
compte.
Qu'est-ce que ça va lui changer? Non, mais est-ce que tu te rends compte des montants 100 millions d'euros par rapport à un salaire annuel? Même si son salaire est amené à 1 million, c'est-à-dire serait doublé par rapport à la règle.
Tu mets à combien le salaire de Zidane? Combien il vaut Zidane?
Moi, je lui donne ce qu'il veut. Et je finis, promis.
Tu lui donnes ce qu'il veut.
Moi, je lui donne ce qu'il veut, c'est Zidane. Évidemment que pour nous, personne lambda, ces sommes semblent totales. Attends, laisse-moi finir.
Lambda, parce que c'est pas une personne lambda.
Écoute-moi.
C'est quoi? C'est un demi-dieu?
Attends, je veux dire, arrête de faire exprès. Quand on prend un joueur, même par exemple, qui gagne, on entend 50 millions à l'année. Mais ça veut dire que le système, lui, il gagne 50 fois plus.
Le milieu du foot, ce sont des milliards et des milliards.
Donc, si on donne, par exemple, à Zidane 500 ou 600 000 euros par mois, tu sais très bien que le système, il rapporte plus et que Zidane va rapporter aussi. Tout ce que tu dis, c'est populisme, mais bien sûr que si.
Alors, Barbara le fait. Abel a raison sur un point, il n'y a pas d'argent public. Donc moi déjà, je considère que je ne paie pas ce monsieur pour
télé,
un sport en plus qui ne m'intéresse pas, donc ça me va très bien. Donc, déjà, premièrement, non mais c'est important pour nos auditeurs de savoir que le salaire de Zidane, c'est pas eux, c'est pas leurs impôts. Donc ça, c'est important.
Non mais c'est inexact, en revanche, c'est totalement inexact.
Didier Deschamps était payé 3,8 millions d'euros bruts. Brut, ça fait 1,2 net, si tu retires tous les impôts, parce que 45% d'impôts. Hein.
Oui, donc, comme pour tout le monde.
Voilà, donc apparemment, Zidane voudrait plus que 3,8 millions d'euros bruts par an de la FFF. Oui. Juste savoir que le sélectionneur espagnol ou le sélectionneur anglais, c'est entre 10 et 15 millions.
Ouais.
Bon, donc ils sont beaucoup plus payés ailleurs.
Deschamps n'était que le 7e sélectionneur.
Ceci étant, moi je trouve que ce foot fric, ça me dégoûte.
Oui, mais ça
mais c'est le système maintenant merveilleux dans lequel nous vivons,
qui
est extraordinaire. Depuis que les grandes pétromonarchies ont mis la main là-dedans, les milliards de dollars coulent à flot, très bien. Bon, ils sont là-dedans, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, ce qui compte, c'est que, un, pas d'argent public.
Oui.
Et deux, je trouve que ce serait quand même honnête de demander pas plus que Didier Deschamps. Parce que si on apprend qu'il demande 5 millions...
Ou alors il faut des primes
au
résultat.
Aussi, ouais.
Ils ont déjà des primes de résultat. Voilà. Mais ça, il ne faudrait pas qu'ils demandent quand même plus que
Didier. Non, il faut qu'il ait la même base que Didier.
Voilà.
Et des primes au résultat.
Parce que c'est quand même déjà bien 1,2 million net par an, c'est déjà pas trop mal, je pense. Ça va aller pour faire vivre la petite famille.
J'apprécie ton honnêteté intellectuelle, parce que même si on peut rejeter le système... Malheureusement, c'est comme ça. Il y a énormément d'argent. Et Deschamps n'était que le 7e sélectionneur le mieux payé parmi tous les sélectionneurs.
Moi, j'aimerais que le rugby,
les salaires en France sont plus bas qu'en Angleterre aussi.
J'aimerais que la natation bénéficie d'autant d'argent que le football, mais apparemment.
Alors, moi, je voudrais qu'on donne la parole à Julien et à Chou qui sont avec nous déjà. Julien, bonjour. Oui, Julien.
Bonjour Olivier.
Vous nous appelez du Nord. Alors, je vais pas prononcer le nom de votre ville ou de votre village parce que je pense que je vais me tromper. Alors, dites-le, vous, Julien.
C'est Saint-Germain-en-Laye, bref, c'est à côté de Lille.
Saint-Germain-en-Laye, d'accord. Alors, est-ce qu'on a raison de dire ce que dit la ministre, que 450 000, c'est pas assez, qu'il va falloir forcément donner plus à Zidane?
Alors, en fait, au-delà des chiffres, il faut replacer un petit peu le débat en quelque sorte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel choix a la fédération? C'est-à-dire mettre un sélectionneur qui, enfin aujourd'hui, qui peut apprendre à Mbappé à tirer au but? Qui
je
peut
crois apprendre que personne, à Olivier il a pas besoin,
à faire une
faire.
Passe millimétrée? Qui peut apprendre à Dembélé à faire des dribbles? Donc d'un point de vue purement technique, footballistiquement, il nous faut la référence. Ces 20-30 dernières années, c'est Zinedine Zidane.
D'un après, point on verra. Tactique, hein. C'est pas sûr que ça marche. Hein. Souvenez-vous, l'ami Michel Platini. Moi, c'est mon dieu vivant, Michel Platini, parce que c'est ma génération. Ça n'a pas été un grand sélectionneur, Michel Platini. Mm-hmm. Attention, un grand joueur, un grand entraîneur peut aussi parfois échouer pour X raisons.
Parfois, flop. On est d'accord.
On a d'autres exemples.
Mais aujourd'hui, qui coche toutes les cases pour être sélectionneur de l'équipe de France? Zinedine Zidane, d'un point de vue historique, technique, etc., il coche les cases. D'un
et
point
les Français
de vue tactique,
le veulent.
Il a côtoyé l'Italie, hein, qui, on connaît, était une référence.
Tout ça, ça n'a pas de prix?
Ben, je sais pas. Mais aujourd'hui, qui coche toutes ces cases-là? Donc aujourd'hui, la fédération, a le candidat idéal. Le candidat idéal, ben, il faut le payer. Donc.
Oui, mais le choix de Zidane fait l'unanimité. C'est pas ça le problème, Julien. Le problème, c'est de savoir combien on le paye. Voilà, c'est ça.
Oui, mais même si on peut discuter sur le salaire, la marque Zidane, ça va rapporter un nombre de sponsors. Vous allez voir que les caisses de la Fédération française vont être ouvertes.
Mais on n'a pas besoin de Zidane. Si. On a déjà une équipe. On a les, parmi les meilleurs joueurs au monde.
Tu crois que Mbappé,
c'est pour ça qu'on était à presque 9 millions en 2024-2025.
Oui, là où est le désaccord, Abel, c'est peut-être que tu as raison, sous réserve, mais c'est pas pour ça qu'il doit monnayer ça. Il n'y a pas que l'argent.
Après, ça, c'est une question de valeur. Moi, je peux être d'accord avec toi.
Donc, ils sont reçus à l'Elysée, tout ça, il n'y a pas que l'argent.
Mais moi, je suis désolé. Il doit prendre pour commencer le même salaire que Didier Deschamps.
C'était un salaire au bout de 14 ans. C'était un salaire au bout de 14 ans.
Oui, bah, à minima. Et ensuite, il augmentera peut-être s'il a des résultats. Pas de résultats, pas d'augmentation.
On remercie Julien qui dit que c'est normal, que de toute façon on peut n'avoir que
Zidane, c'est le meilleur. Moi j'ai fait mes études avec Philippe Diallo qui est un ami, je lui dis dès qu'on pas Philippe, sois ferme.
Le patron de la Fédération Française de Football. Achour est avec nous, bonjour Achour.
Bonjour les GG.
Vous nous appelez du département de l'Essonne, à Fleury-Mérogis précisément.
J'étais en train de faire mon footing et je suis tombé abasourdi, j'ai des pulsations cardiaques qui sont montées à 200. J'apprends qu'on paye un fonctionnaire de football avec l'argent du contribuable qui en plus est déjà bien payé, bien plus qu'un ministre, et en plus non, je sais pas, j'ai même pas les mots, j'ai envie de
alors
dire.
C'est, alors,
non, c'est
Achour,
pas payé par nous, hein.
Alors, sûr que si,
c'est de l'argent privé.
Alors, l'Achour, c'est essentiellement des droits télé, qui payent le salaire de Zidane.
Les sponsors.
Oui, mais non, mais vous parlez de casser la tirelire. Madame Ferrari, elle est en Ferrari ou pas?
Ah, bah oui, c'est sûr que, Mme Ferrari a dit qu'il faudrait faire un effort supplémentaire parce que c'est Zidane.
Mais les Français n'ont pas à faire d'efforts pour une personne qui ne remplit pas le frigo des Français.
Non, mais Achour, il n'est pas payé par le contribuable. Et d'ailleurs, je vous rejoins sur ce point. De quel droit la
ministre? C'est le contribuable français, la tirelire, non?
Non, Achour.
C'est une partie de l'argent de la Fédération.
Non, mais pourquoi Achour, comme bien des Français, a raison de s'inquiéter? On se demande pourquoi la ministre des Sports vient se mêler de quelque chose qui ne la regarde pas, puisque c'est de l'argent privé, c'est la FFF.
N'importe quoi, tu racontes n'importe quoi. C'est la Fédération française, elle est portée à bout de bras par l'État.
Non, c'est pas vrai financièrement, mais arrête de dire n'importe quoi.
C'est pas un club de foot.
Mais
qu'est-ce que tu racontes?
Viens nous prouver.
Mais non,
viens donner des chiffres.
Et quand il y a des
morts,
alors c'est quoi les chiffres?
Calmez-vous.
Alors c'est quoi la part du budget de la FFF payée par le contribuable?
Il y en a pas. Il y a plein de tuyaux.
Oui, oui, et puis il y a des plombiers, puis il y a des bégonias.
C'est pas du tout indépendant.
L'État met 3 à 4% et cet argent va où? Cet argent va où? Il va justement dans l'antichambre des centres de formation, donc dans les pôles espoirs et dans le football amateur.
Oui, mais Abel, ça va. Là, pour rejoindre quand même Emmanuel de Villiers, c'est que l'argent que tu donneras en plus à Zidane, c'est de l'argent que tu donneras moins au foot amateur, etc. Donc ce sont des choix quand même. Et la Fédération française, je suis désolé, c'est une délégation de service public.
Tout à fait.
regarde, loi 1901. Et ça regarde les Français.
Oui, c'est donc, loi 1901 avec délégation de services
donc,
publics.
Donc, l'argent utilisé par la Fédération française, Monsieur Diallo peut pas faire n'importe quoi avec cet argent.
Oui, mais il c'est pas même... l'argent du contribuable pour autant.
D'accord, voilà. Mais il a quand même, il a un souci d'exemplarité et de transparence.
Olivier, tu connais le foot quand donc, même. Voilà. La marque Zidane, c'est une marque mondiale. Oui. Ça va te rapporter des dizaines
oui,
et des
oui,
dizaines.
Mais, oui, d'accord. Oui, alors ça, non, parce que les droits télé
sur le banc.
Non, parce que les droits télé.
Mais bien sûr.
Non, parce que l'équipe de France, qui paye l'équipe de France?
Bah,
en gros, c'est TF1. Bon, ou M6. Bon, je peux te dire qu'en ce moment, ces chaînes de télé, n'ont pas une santé économique extraordinaire. La pub rentre moins, etc. Moi, je ne crois pas du tout à l'explosion des droits télé sur l'équipe de France.
Mais en tout cas, il y a un budget de 348 millions pour l'année à venir.
Comme le dit Barbara, ce qui serait bizarre, c'est qu'il soit mieux payé que Deschamps. Je suis désolé. Il faut qu'il fasse ses preuves. Et que si, effectivement, il a des résultats, dans ce cas-là, tu augmentes les primes, etc. Au mérite.
Oui, mais même au salaire. Là, on a Achour au téléphone. Il est scandalisé. Voilà, c'est tout.
Oui, mais il est scandalisé d'une certaine façon à juste titre, puisqu'il entend la ministre s'en mêler. Donc il se dit, si la ministre s'en mêle, c'est que c'est moi qui paye.
S'il nous fait gagner l'euro, si Zidane nous fait gagner l'euro, super prime.
Est-ce qu'elle se mêlerait du sélectionneur de l'équipe de handball? Non. Est-ce qu'elle se mêlerait du sélectionneur de l'équipe de golf? Le foot.
Elle se contenterait d'un salaire bien inférieur.
Ah ben ça c'est sûr. De toute façon, le foot c'est quand même assez
là bas malheureusement. Donc
enfin, tant qu'il y aura encore des gens qui gagnent 1200 euros par mois pour aller s'acheter des maillots à 300 balles, ben faut pas s'étonner non plus. C'est vraiment le sport.
Sur ce point, je suis d'accord.
Non mais c'est le sport pour endormir les gens. C'est vraiment le truc.
Ça c'est autre chose.
C'est l'opium du peuple.
Au contraire là.
Non, je n'ai pas dit tout, c'est au contraire, j'ai toujours
Barbara,
pensé
stop.
C'était l'opium du peuple.
Achour, merci.
Allez les bleus.
On a une consultation cette fois-ci. Ah bah ben, c'est clair. Doit-on casser la tirelire pour Zizou? Vous dites non à 83%. Voilà, au moins les choses sont claires. Nous sommes avec Marc. Marc, bonjour. Marc est avec
bonjour
nous.
Bonjour les GG.
Bonjour, de Charente-Maritime. Vous connaissez le parc Astérix?
Non, pas du tout, j'ai jamais été.
Eh ben voilà, eh ben vous allez pouvoir y aller en famille, puisque c'est vous qui remportez ce séjour de 2 jours avec nuit d'hôtel pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants au parc Astérix.
Oh, c'est super, merci beaucoup. Merci
vous allez vous régaler. Moi, je connais ce parc. Voilà, c'est un des meilleurs parcs en France. Vous avez vraiment passé 2 jours formidables. Il y a une 50aine d'attractions. Il y a plein de spectacles. Bref, un été gaulois pour vous, Marc.
Oh, merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. On vous écoute tous les matins sur le chantier. Donc, continuez comme ça.
Merci, Marc. Bonne journée à vous.
Merci.
Gagnez votre séjour au parc Astérix sur RMC et célébrez l'été gaulois. Du 11 juillet au 30 août, profitez de soirées jusqu'à 22h et d'un tout nouveau spectacle de drones.
Un été gaulois non réfractaire.
Exactement. Eh bien, justement, vous allez vous rester des gaulois réfractaires, mes chers grandes gueules, dans un instant. On va parler de toutes ces restrictions d'eau qui ont été décidées dans de nombreux départements. On arrête de remplir les piscines, d'arroser, etc. Est-ce que vous les respectez véritablement? Allez, dites-moi tout au 32-16. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Onze heures 44, c'est la dernière ligne droite dans les grandes gueules. Emmanuel de Villiers, Abel Boyer, Barbara Lefebvre, vous le savez, c'est un été de sécheresse. C'est tout le territoire quasiment qui est concerné par le manque d'eau. Et ce qui est aberrant, c'est qu'il a tellement plu cet hiver. Et malheureusement, cet été, on manque de pluie. Et alors, il va pleuvoir un peu ce week-end, mais enfin, c'est pas suffisant. Donc, c'est la sécheresse partout. Il y a eu 3 canicules déjà. Et donc, il y a des interdictions d'utiliser l'eau pour remplir les piscines, pour arroser son jardin. Est-ce que vous respectez ces restrictions d'eau cet été? Allez, soyez honnêtes au 32-16. Mes chers grands gueules, toi, Emmanuel, qui vis à la campagne.
Oui, il faut s'y plier, mais elles sont souvent excessives parce qu'on voit des débats. Moi, je trouve que, par exemple, pour les piscines, c'est pas celui qui a économisé pour se payer sa piscine, qui remet un petit peu d'eau en attendant la pluie, de l'eau qui paye, qu'il faut pointer du doigt et qu'il faut sanctionner. C'est le voyou qui casse une bouche à incendie, qui fait consommer beaucoup d'eau et qui ne la paye pas.
Mais il est sanctionné, hein, c'est un délit. Hein.
Non, il est sanctionné marginalement, mais dans la vie réelle, il y en a même
et
pas.
Et toi, 1% tu as une petite piscine, tu ne l'as pas ouverte.
Cette année, je l'ai pas ouverte parce que voilà, mes enfants sont plus grands, et puis c'est toute une contrainte, c'est des coûts aussi de suivre une piscine. Donc voilà, j'ai fait le mauvais choix.
En même temps, lorsqu'il fait très chaud, qu'il y a la canicule, la piscine, ça peut être aussi une solution. Quand on nous dit, il faut nous rafraîchir, il faut c'est peut-être aussi. Et je vois aussi qu'il y a des gens qui disent aux voisins de venir, etc. Mm-hmm. Donc c'est pas forcément quelque chose d'égoïste, la piscine individuelle.
Ouais, mais de toute façon, il y a beaucoup de confusion. Moi, par exemple, j'ai une pelouse assez grande. Je prends le risque de ne pas l'arroser du tout en cette période-là.
Donc là, elle est jaune.
Ouais, elle est vraiment jaune, quoi. Couleur terre presque. Et ce qui est terrible, c'est que pour le français lambda, en quelques semaines, tu vois des personnes qui perdent leur maison à cause d'inondations. Quelques semaines plus tard, des personnes qui perdent leur maison à cause d'incendies. Oui. Et tu te dis,
dans le Var,
des inondations, qu'est-ce qu'on en a fait? On n'a pas pu récolter l'eau de pluie à cause des débats politico-écolo et tout. Et on perd du temps. Donc aujourd'hui, on subit les situations plutôt qu'être dans l'anticipation. Aujourd'hui, on devrait être en train de préparer l'été prochain ou l'hiver prochain. Donc aujourd'hui, on
Tu sais, on commande des clims là en ce moment pour les hôpitaux en urgence.
Oui, oui.
On ne sait pas d'ailleurs où elles sont. La Exactement. Ministre était incapable visiblement de dire précisément combien de clims étaient arrivés.
Ils sont coincés dans le détroit d'Ormuz.
Enfin, en même temps, cet hiver, on nous a dit les nappes phréatiques sont pleines à ras-bord.
Mais voilà.
Donc, non, mais je veux dire, quand tu dis on ne récupère pas l'eau, etc. D'abord, la nature, par elle-même, par principe, elle récupère l'eau.
Les
nappes phréatiques, elles étaient pleines. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disaient ? Pas de problème, les nappes phréatiques sont pleines. Donc, on voit le niveau d'anticipation. Et c'est normal, ils viennent juste d'arriver. C'est les amateurs, on nous avait prévenus. La piscine, moi je suis pas très pro piscine, mais c'est une eau qui est renouvelée.
Oui, alors maintenant
c'est
pas, en plus avec voilà,
les nouvelles piscines,
on ne change pas l'eau en fait.
On change pas l'eau tous les 4 matins. Donc moi ce qui me dérange plus, c'est et c'est pour ça qu'Abel en parlait, les gens qui arrosent
à 15h
leur jardin, voilà, ou qui tiennent vraiment absolument à arroser le massif de rosiers ou le massif de fleurs
si
parce que
potager,
sinon il va pas être beau.
Bah, il y a beaucoup de gens qui ont des potagers.
Alors le potager c'est pareil, tu peux faire de la micro irrigation.
Quand tu fais pousser quelques tomates, etc.
Oui,
tu
mais
vas
là,
regarder
attends,
la personne qui fait pousser
non,
tomates.
Non, mais quand tu fais pousser quelques tomates, c'est pas parce que tu vas arroser tes plants de tomates que tu vas mettre en péril tout le département. La question c'est les gens qui lavent leur bagnole, arrosent à tout va leur pelouse. Non, je suis désolée. Moi, dans ma résidence, on a un grand parc. Bon bah, on a des massifs de fleurs. Bah là, on les arrose pas. Faut voir la.
Il y a les golfs aussi.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on fait des golfs? Parce que c'est aussi une activité touristique et ça, bah oui, mais c'est l'économie.
Les golfs, c'est pareil. Tu as quelques golfs qui ont maintenant une nouvelle stratégie d'irrigation et aussi des golfs qui acceptent d'avoir des parties entières du golf qui va être laissé un peu en jachère en quelque sorte, hein, pour pérenniser d'autres parties de golf. Moi, je trouverais normal que le 18 trous ferme et qu'on n'ait plus qu'un 9 trous quand c'est sécheresse ou qu'on ferme. Je suis désolée, on peut se passer du golf pendant un mois
mais
ou
c'est
deux.
C'est une activité économique. Yann est avec nous, bonjour. Yann, il est du côté de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne. Bonjour Yann.
C'est ça, oui, bonjour.
Comment vous faites, vous, alors? Parce que vous avez une cuve de récupération, c'est ça, d'eau?
Eh bien, comme je disais au standard tout à l'heure, je vous avais appelé il y a à peu près, je pourrais dire, 2 ans. Et pour vous dire ce que j'avais fait, et le truc, c'est qu'on avait rigolé là-dessus, parce que moi, j'ai construit il y a maintenant 11 ans, j'ai pris une initiative de mettre une pluie dans une zone de pluie entière.
Alors attendez, Yann, parlez bien près du téléphone, sinon vous perdez.
Oui, ça vous entendez?
Ne bougez plus, voilà.
Ok. Ouais, donc moi j'ai construit il y a 11 ans maintenant. J'avais pris l'initiative de mettre une cuve de récupération d'eau de pluie de 3000 litres enterrée sous terre pour alimenter toilettes, machines à laver et robinets de puisage pour arroser mon jardin ou laver la voiture, par exemple, entre-temps.
Et ça fonctionne?
Ah, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et par contre, moi, on m'avait dit, si tu fais ça, il faut le déclarer, parce que tu seras imposé.
Ah, et vous l'avez fait?
Non.
Ouais, vous avez bien fait. Non, mais vous avez bien fait.
C'est incroyable ce que vous racontez.
Et vous l'avez installé vous-même en plus. Donc pourquoi qu'est-ce qu'on va venir vous pomper l'air avec une taxe?
J'ai été installé moi-même, non, par un artisan. Mais
oui, mais vous avez payé. Vous n'avez pas été aidé par une subvention de l'État, que je sache.
Du tout.
Bon, bah voilà alors.
Ah oui, parce que sinon, il y a des taxes là-dessus.
Oui, parce que ce qu'ils trouvent à dire, c'est que l'eau des toilettes et de la machine à laver, bon, on ne les ont plus. Parce que moi, je suis raccordé à tout à l'égout, si vous voulez.
Ah oui.
Oui. Et donc, comme ça va dans tous les goûts, le traitement m'est imposé.
Enfin, faites gaffe quand même, parce que si l'eau des toilettes va dans la douche, bon.
Non, mais Yann a mille fois raison, parce que c'est un scandale absolu d'avoir l'eau des toilettes qui est potable.
Mm-hmm.
À chaque fois que vous tirez la chasse, tirez la chasse d'eau avec de l'eau potable. Et ça, ça va faire des années qu'on le dénonce. Ça fait des années qu'on le dénonce. Bah oui, moi, mes chats, des fois, ils pourraient boire l'eau des toilettes.
Tes chats,
j'ai trouvé une fois mon chat qui buvait l'eau des toilettes. Mais une fois la chasse tirée, bien sûr.
Mais Yann, pardon, c'est intéressant votre système. Donc vous avez cette cuve, ça vous permet donc l'eau des toilettes, la machine à laver.
Oui. Et le robinet de puisage dehors de notre jardin.
Et le remplissage de jardin.
Parfaitement.
Et donc vous dites en fait, il faut pas de taxe là-dessus pour inciter les gens à installer ce type de système.
Aidé, pourquoi on taxerait derrière?
C'est pas
bien
faux.
Sûr.
Bah, mais
bien
parce
sûr.
Que tout est taxé, Yann, vous le savez bien.
Mais il taxe les petites cabanes sauf que tu mets dans ton jardin aussi.
Exactement.
Hein.
Merci,
moi,
Yann.
De mon plein gré, et puis
bah oui, bien sûr.
Moi, je serais taxé là-dessus. Quoi. Bon. Pour ça, moi, j'ai rien dit à personne.
Bah vous oui, avez bien. Parfaitement raison et bravo.
Mais là, ça tombe bien parce qu'il y a des millions de gens qui vous ont entendu. Et je suis sûr que l'inspecteur des impôts de Saint-Brieuc va se faire un malin plaisir.
Non, mais de toute façon, il l'a enterré, donc on ne voit même pas. Vous l'avez enterré sous terre.
Et puis des Yann en Bretagne, il y en a plein. On ne va jamais le retrouver.
Exactement.
Allez, Yann.
On préservera votre anonymat.
Kenavo. Et Karim est avec nous de Grenoble, en Isère, dans l'Isère. Bonjour Grenoble. Bonjour Grenoble. Bonjour Karim.
Bonjour Grenoble.
Bonjour Grenoble aussi.
Bonjour.
Vous êtes gardien d'immeuble et vous exactement. Avez un problème parce que vous avez beaucoup de mètres carrés arrosés, c'est ça?
Exactement, malheureusement. Bah, moi, j'ai, en fait, en d'autres termes, j'ai 7209 mètres carrés d'espace vert.
Ah oui.
Mais donc, qui vous oblige à les arroser? C'est le syndic?
Exactement, en fait, ça fait partie de mon contrat. Je suis obligé, quand j'aurais posé la question, justement, par rapport aux restrictions du fait que. Bah là, avec la chaleur et tout, la canicule, est-ce que je dois arroser? Ils m'ont dit, rien à secouer, vous arrosez.
C'est honteux.
Attendez, est-ce qu'il y a des restrictions d'eau dans le département?
Honteux.
Bah, je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout.
Ah oui, moi,
je viens d'arriver il y a une semaine et demie sur Grenoble. Moi, j'étais rouennais avant.
Ah oui.
Et d'ailleurs, à ce sujet, on s'est déjà parlé plusieurs fois.
Mais Karim, dites-moi. L'herbe, elle est comment? Alors,
elle est jaune.
Ça sert à rien d'arroser.
Oui, mais non, mais le problème, c'est qu'on a énormément de plantes. Ce que je veux dire, c'est qu'on a énormément de plantes.
Ah oui. Vous avez des massifs, etc.
Donc vous êtes en fait coincé parce que vous avez d'un côté le syndic qui vous dit c'est dans votre contrat, il faut arroser, et de l'autre vous dites bah peut-être qu'en ce moment l'eau, il faut pas la gaspiller, on en a besoin. Ouais, je comprends. Mais renseignez-vous parce que je sais pas si dans l'Isère il y a des restrictions d'eau. Bah, on va regarder, on va vérifier.
Je sais juste qu'à Grenoble, la canicule continue. Donc
oui,
après,
il fait très chaud là encore en ce moment, hein, de ce côté-là.
Non,
ouais.
Non, c'est vraiment supportable. Petite précision, pardonnez-moi, monsieur,
oui.
Dame, évidemment. Je voulais simplement faire un énorme remerciement à Barbara Lefebvre. Vous savez, on s'est eu au téléphone il y a quelques années par rapport au viol de ma fille.
Oui, je me rappelle. Oh là 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 là.
Et donc, Barbara, je te remercie du plus profond de mon cœur parce que grâce à toi, j'ai pu passer avec Rotaillot. Et puis, il y a trois semaines de ça, je suis allé sur votre plateau, vous savez, la violence, le grand forum.
Sur le forum BFM TV, ouais.
Je vois qui vous êtes très sympathique, oui.
Quelle histoire.
À la fin, j'ai envie de faire pipi. C'est moi. Enfin, voilà.
Et
est-ce que ça avance un petit peu?
Non, bah cette pourriture est toujours en liberté.
Oh, c'est pas vrai.
Et non. Et enfin bref, cette histoire, c'est bah là avec ma fille et moi, on a décidé de tourner la page. Mais non, cette pourriture est toujours en liberté.
Bon, ben bon courage à vous, Karim. Mais simplement, j'ai votre réponse. Hein. Effectivement, il y a des restrictions d'eau pour le département de l'Isère qui s'appliquent notamment lavage des voitures, les cours d'eau, l'arrosage, etc. Donc, vous dites à votre syndic, écoutez, il y a un arrêté et je peux pas être hors la loi, donc je peux plus arroser. Hein.
J'ai rendez-vous avec eux cet après-midi justement pour récupérer. Voilà. Bah,
dites que les grandes gueules sont derrière vous, Karim.
Et Karim, courage à vous et à votre fille.
Merci, Barbara.
Les GG sont toujours avec vous.
Je te remercie du plus profond de mon cœur, Barbara. On n'a pas les mêmes idées politiques, mais ça n'empêche pas que
vous êtes humaine. Merci beaucoup. C'est un combat universel.
Merci du plus profond de mon cœur, Barbara.
Bon, merci à vous, Karim, et bon courage avec aussi votre problème d'eau. Mais c'est vrai que tous ces jardins, de toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus arroser. C'est cramé, les.
C'est clair.
Arroser un sol jaune.
Ah oui, ça sert strictement à rien. Et en plus, ça fait pousser plein de petites mauvaises herbes, là. Moi, en ce moment, mes chats, excusez-moi, mais comme ils sortent, ils adorent jouer avec les pissenlits parce qu'il y a énormément de pissenlits qui poussent là avec cette chaleur. Et alors, ils respirent tout le temps des petits trucs de pissenlits. Ouais, je suis toujours en train de leur nettoyer le nez. C'est passionnant, mais quand même,
pour bien connaître l'arrosage.
Au sérum fi, toujours pour nettoyer le nez.
Oui, je m'y étais penché au Puy du Fou. En fait, quand il fait très très chaud, il faudrait pouvoir. C'est des systèmes d'arrosage automatique avec programmateurs qui le font. Mmh. Il faut arroser au cœur de la nuit, à minuit, 1h du matin.
Bien sûr.
Parce que les bulbes ou je ne sais quoi, et c'est le seul moment où l'arrosage est efficace pour imbiber toute la nuit.
Et quand vous installez un petit potager chez vous, faites-le tout de suite avec la micro-irrigation. Et là, vous êtes tranquille. Micro-irrigation, c'est parfait.
Allez-vous respecter les restrictions d'eau cet été? On vous a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules. Qu'avez-vous répondu? En toute honnêteté, bien sûr. Oui, bien sûr. Bravo. 52,1%. Non, pas du tout. 47,9%. Ah ouais, quand même, ça s'est partagé. Hein. Ouais. Les Français ont du mal à suivre les consignes. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, mes chers GG. Dans un instant, le meilleur d'Estelle Midi sur RMC. Et nous, on va se retrouver demain matin à 9h avec une nouvelle tablée de grande gueule. Antoine Dierz, Didier Giraud, l'éleveur, et Flora Gebali, l'entrepreneur dans la transition écologique. D'ici là, passez une très belle après-midi.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.